simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 22 mars dernier a eu lieu, à Lille, une discussion autour de la voiture électrique et des gigafactories dans les Hauts-de-France et ailleurs. Cette discussion était organisée par l'organisation communiste libertaire et qui fera l'œuvre d'un article dans le prochain Courant Alternatif.
On est là pour discuter des voitures électriques et des gigafactories dans les Hauts-de-France, avec aussi l'histoire du transition du capitalisme, point d'interrogation. On trouvait intéressant de parler de l'automobile, parce que c'est une invention, même peut-être l'invention majeure du capitalisme depuis le 19e siècle, hein, qui a accompagné le changement des rapports sociaux, le changement de nos paysages, hein, il suffit de voir l'omniprésence de la voiture partout, et aussi et surtout qui accompagne tout ce qui est transformation du travail, puisque on peut parler du travail en utilisant des marques de voitures finalement, puisque le Fordisme, quelque chose qui apparaît, donc le travail à la chaîne, mis en place au début dans les abattoirs de Chicago, mais ensuite repris par Ford. Ensuite, on a le Toyotisme, qui lui va plutôt être sur le juste à temps, en essayant d'avoir le moins de stock possible pour faire circuler plus rapidement le capital. Et enfin, le Teslisme, alors ça existe le Teslisme, j'ai découvert ça, où ça reposerait sur les batteries électriques, essentiellement, et les véhicules dits intelligents, dits connectés. Donc voilà, on est vraiment dans un rapport, je trouve, avec la voiture intéressant pour discuter de tout ça. Et comme nous sommes des matérialistes et que nous nous intéressons au capitalisme et à son évolution pour mieux le défoncer, c'était intéressant, je pense, de discuter de ça. Pourquoi on discute de ça ici à Lille? Parce que dans la presse, c'est dit un peu partout que nous sommes maintenant la vallée de la batterie. Il y a déjà deux usines qui existent, qui sont celle de Douai et celle de Française des Mécaniques à Douvrin. Et là, on a deux nouveaux Dunkerque, qui est sur le littoral de la mer du Nord. Il va y avoir aussi deux usines. Et là, il y a des investissements monstrueux qui sont faits. Il y a Macron qui est allé. Enfin, vraiment, c'est un peu le fer de lance, j'ai l'impression, de la transition économique ici dans les Hauts-de-France. En lien aussi, par exemple, aussi avec la construction de l'EPR à Gravelines, etc., etc. Donc c'est pour ça que on a trouvé intéressant d'inviter Tom Jo, qui a travaillé sur le sujet, qui produit des textes régulièrement, puisque en fait parler de la voiture électrique, bah, c'est parler capitalisme, c'est parler extractivisme, capitalocène, géopolitique. Si on s'intéresse aux dernières évolutions avec Trump autour des terres rares, la compétition avec les Chinois aussi. Et enfin, c'est aussi parler de ce terme de transition, puisque transition, c'est à la mode partout. On nous le dit partout. C'est intéressant aussi puisque, je vous rappelle, l'Union européenne annonce 2035 comme la date officielle de la fin des voitures thermiques neuves. Mais visiblement, là, il y a déjà eu récemment des annonces qui disent que finalement, ils sont en train de reculer. Et ça, c'est intéressant aussi d'en discuter aujourd'hui. Pourquoi ces effets d'annonce et derrière ces reculades?
C'est Tom Jo et Moi, j'habite à Lille depuis 20 ans. Ça fait 15 ans que je fais, que je participe à diverses activités de d'enquête, de critique sociale, etc. À la Brique d'abord, et puis ensuite j'ai fait mon site Hors Sol. J'ai eu l'occasion de faire un petit bouquin à l'échappée qui s'appelait L'Enfer Vert et qui discutait de comment les verts peuvent être à l'avant-garde de certaines sociétés cybernétiques de contrôle social au prétexte de sauver le monde. Pour aller vite. Et de manière générale, je suis attentif à la catastrophe écologique depuis cette région qui est qui a le plus souffert, on va dire, de 2 siècles d'industrie au niveau écologique, social, culturel, etc. Et je m'intéresse aussi beaucoup à ceux qui prétendent remédier à ces questions, à ces problèmes. À ce titre, j'ai vu arriver depuis, oubliez la date, les premières annonces, c'est à peu près au moment du confinement, pour la première usine. L'arrivée d'une première, ce qu'on a appelé une gigafactory, un nouveau mot qui est arrivé, c'est-à-dire la définition officielle, c'est une usine qui est capable de produire pour 1 gigawattheure de batterie, quoi. Ça viendrait d'Elon Musk, ce terme-là, ça vient de chez Tesla. Et donc on nous annonce une première usine à Douvrin, et puis une deuxième à Douai, et puis encore 2 à Dunkerque, et puis une dernière à Amiens, à renfort d'argent public, mais de façon monstrueuse, quoi. L'État et l'Europe, en général, pour chaque projet, ils viennent y mettre un tiers dans l'investissement. Pour des entreprises comme Stellantis, comme Prologium, c'est des noms forcément qui ne nous parlent pas forcément toujours, mais pour en gros des grosses multinationales, soit de l'automobile, soit de l'accumulateur, de la batterie, l'État arrive et met par exemple 1,5 milliard d'euros pour celle à Douvrin, quoi. Donc c'est monstrueux. C'est difficile de jongler avec les milliards, mais en gros, le plan d'aide d'urgence pour l'agriculture biologique, l'année dernière, pour toute la France, c'est 80 millions. Pour, je sais pas combien il y a d'exploitants, mais ça donne un peu une idée du truc, quoi. Là, pour une boîte, il y a 1,5 milliard, quoi. Et donc, bon, moi, je regarde, j'ai un peu l'habitude maintenant d'aller chercher des infos, donc je vais voir toutes ces boîtes, elles sont obligées de produire auprès de la préfecture des documents un peu techniques, assez rébarbatifs, mais enfin bon, au moins, dans lesquels on apprend des choses, du genre, qu'est-ce que ça va consommer comme eau, comme électricité, comme matière première qui vont arriver, c'est quoi la dangerosité, tous les trucs un peu super techniques. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, une usine comme celle qui va y avoir à Douvrin, va consommer l'électricité équivalente d'une ville de 800 000 habitants. Donc ça fait un réacteur, quoi. Il va y avoir 5 usines comme ça. Ça va consommer, en termes d'eau, l'équivalent d'une ville de 20 000 habitants ou 30 000 habitants. Plus après, tout le lithium, le cobalt, le manganèse. J'ai pas tous les chiffres parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus, mais des quantités énormes de matériaux, de matières premières qui vont arriver du Gabon pour le manganèse, du Chili pour le machin, qui vont tous arriver à Dunkerque, être dispatchés, etc. Bon, bref, c'est toute une chaîne productive monstrueuse qui pose question, quoi. Mais moi, ce qui m'a encore plus interloqué, c'est qu'en face, il y avait absolument zéro esprit critique. Vraiment, alors que sur tous les sujets, bon, moi je suis habitué, on fait un contournement autoroutier, il y a un truc, sur plein de sujets, il peut y avoir, à juste titre, des assos, des machins, des élus locaux, des... Et là, c'est peut-être le plus gros programme de réindustrialisation, on va dire, depuis les années 60, pour le Nord-Pas-de-Calais, depuis le début de la fermeture des mines et l'arrivée de l'automobile. Et tout le monde, c'est pas qu'il n'y a pas d'esprit critique, c'est tout le monde est d'accord, mais à fond. À fond, à fond, à fond, la droite, la gauche, les verts. Le mouvement associatif, climat, tout ce milieu militant climat, quoi. Et ça m'a vraiment... j'étais sur le cul. À partir de là, je me suis dit, bon, j'y connais rien en batterie, et puis je vais faire de l'enquête en cherchant un peu, historiquement, qu'est-ce que c'est que ces histoires, et comment est-ce qu'on fait pour en arriver à un tel truc, à une telle situation. J'ai écrit 4 gros articles qui se trouvent sur le site que j'anime chez Renard, ou sur le site de Pièces et Main d'œuvre avec qui je travaille régulièrement, voilà. qu'on peut trouver, imprimer et tout. Les premières usines de batteries et d'accumulateurs commencent à se créer. Ça va être les premières batteries pour voitures, fin 19e, début 20e. Ça va être les premières batteries pour sous-marins. Pendant tout un temps, il va y avoir des sous-marins uniquement électriques. Après, ils vont être hybrides. Aujourd'hui, ils sont hybrides. Ça va être les batteries pour l'armée, beaucoup, pour les appareils portatifs, donc pour l'éclairage ou pour les télécommunications. Kuhlmann, c'est un peu la grosse boîte, on va dire, jusque la guerre, quoi. Et qui travaille quand même beaucoup, beaucoup pour l'armée, et y compris pour l'armée anglaise, etc. Et ensuite, je me suis intéressé à la SAFT, la Société des Accumulateurs Fixes et de Traction, qui est en fait la boîte qui a ouvert la première Gigafactory à Douvrin. C'est une boîte qui est pas très connue parce que comme Fulmen et encore plus en fait, elle travaille quasiment que pour des industriels. Elle fait pas de petites piles comme par exemple Vonder qui était connu à une époque ou Varta ou. Ils bossent par exemple pour l'aérospatiale. Les fusées, elles sont avec des batteries Saft. Pour l'aéronautique, tout Boeing, etc., ils fonctionnent avec ces batteries-là. Pour les chars. En fait, jusqu'alors, ils ne travaillaient pas trop pour l'automobile, mais là, ils s'y mettent avec Peugeot. Quoi. La Saft, c'est assez intéressant parce qu'ils se créent pendant la guerre 14. Ils sont réquisitionnés pour fabriquer des armes chimiques, puisque en fait, ils sont comme, c'est des entreprises chimiques, en fait, les entreprises de batteries. Ils sont réquisitionnés pour faire des bombes. Bref, c'est une boîte qui va grossir et choper plein de marchés militaires. Et qui va aussi, donc ça je le raconte, mais qui va aussi beaucoup collaborer en 40, qui va travailler pour l'Allemagne. Il bossait déjà même avec les nazis avant, avec leur équivalent allemand qui était l'AFA, qui fabriquait les Varta. Et là, ils vont collaborer à fond. Et en 46, ils seront complètement, graciés, quoi. Comme toutes les boîtes françaises. Il n'y a que Renault, peut-être. Mais sinon, il n'y a vraiment aucune boîte française qui a collaboré, qui a subi quoi que ce soit. Et leur équivalent allemand, donc l'AFA, qui est aussi propriétaire de BMW, qui est aujourd'hui la plus grosse famille. Alors eux, ils étaient carrément propriétaires de deux camps de travail dans lesquels ils fabriquaient les missiles V2 et ils fabriquaient aussi les batteries pour les missiles et les batteries pour tout l'appareillage de l'armée allemande. L'espérance de vie dans un camp de travail comme ça, c'était 6 mois à peu près, parce qu'ils travaillaient avec du manganèse tout le temps. Et pareil, ils ont été graciés. Il a fallu attendre un documentaire en 2007 en Allemagne et le travail d'un historien. La famille, les descendants ont fini par payer un historien pour qu'il fasse le travail de mémoire de leurs parents, grands-parents. Et donc ça, toutes ces boîtes-là françaises étaient au courant parce qu'ils travaillaient tout le temps ensemble. Enfin, ils savaient ce qui se passait en Allemagne, comment on fabriquait des batteries en Allemagne. On arrive donc après-guerre. Pour faire des gigafactories, donc il faut des batteries. Et il faut aussi toute une industrie automobile qui arrive dans le Nord-Pas-de-Calais avec la fin annoncée de la mine. Mais en fait, dès 58, 59, 60, on sait que le charbon, c'est terminé. Il y a la grande bataille du charbon, 45, 47, 49, 50, la grande reconstruction. Et on a à peine terminé cette bataille du charbon que, assez vite, on annonce la fin de la mine. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'énergie nucléaire qui arrive. La France est encore en Algérie, elle trouve du pétrole en Algérie, donc il y a du pétrole qui arrive. Et puis on a fait la CECA aussi, un truc qui s'appelle la CECA. Le charbon français, il est en concurrence avec le charbon allemand, le charbon belge, luxembourgeois, etc. Et au bout d'un moment, comme il est super profond par chez nous, au bout d'un moment, il est plus très intéressant. On annonce la fin du charbon et on annonce à toute cette région qu'on va se reconvertir dans l'automobile. La première, c'est Bridgestone, à Douvrin. La Française de Mécanique, où se trouve aujourd'hui la Française de Mécanique qui est partie en Hongrie, où se trouve cette usine de batterie aujourd'hui, la première Gigafactory, se trouve à la Française de Mécanique. Et en fait, on se rend compte que déjà à l'époque, l'Europe, la France, ils alignent, mais je ne sais pas combien, je ne trouve pas à chaque fois les chiffres, mais toutes ces grosses boîtes, et notamment Renault, qui est une régie nationale encore, c'est une boîte publique, en fait, toutes ces grosses boîtes, c'est vraiment le haut du capitalisme, se retrouvent à venir s'installer ici, grâce à l'argent de l'Europe et de la France. Et ils payent tout, quoi. Par exemple, s'il faut viabiliser un terrain, je ne sais pas combien d'hectares, 350 hectares pour faire la Française de Mécanique, c'est l'Europe qui paye tout. Et pareil, la reconversion, les formations des mineurs, etc. Tout ça, c'est payé par l'État, quoi. Et eux, en fait, ils arrivent et il n'y a plus qu'à s'installer, tout est prêt. Et c'est exactement ce qu'on revit aujourd'hui, quoi. Tout leur est préparé, juridiquement, les terrains, les logements pour les travailleurs, les bus, les réseaux, machin. L'autoroute A21, elle est construite pour eux. Enfin, le territoire est livré, en fait, c'est vraiment ça, aux industriels. Donc là, ça commence à partir des années 60, 70, etc. Mais bon, à l'époque, on a encore beaucoup de pétrole. Et surtout, dans la petite histoire de la voiture électrique, elle n'est pas très intéressante parce que le rapport entre le poids de la batterie, la puissance et l'autonomie par rapport au pétrole, c'est juste pas possible, quoi. Souvent, on nous présente la bataille entre la voiture électrique et la voiture thermique comme une bataille idéologique entre la droite qui serait pour le pétrole et la gauche qui serait pour la voiture électrique. Mais non, c'est juste que le rapport poids-autonomie, c'est sans commune mesure l'avantage de la voiture thermique. Mais va arriver, à partir des années 70, plusieurs innovations, une série d'innovations, qui vont aboutir à la création de la batterie au lithium, qui va permettre de stocker 10 fois plus d'énergie, 10 fois plus de puissance. Et donc, on va commencer à pouvoir imaginer peut-être des voitures électriques qui concurrencent la voiture au pétrole. Donc ça, c'est intéressant, je fais un petit peu l'histoire, parce que le premier à faire la batterie lithium, le mec, il bosse pour Exxon, qui est la plus grosse boîte aux États-Unis d'exploitation de pétrole et de vente. Il sent déjà au début des années 70 que peut-être qu'un jour, on va arriver à la fin du pétrole, et que peut-être il y a des problèmes de la question climatique qui commence à se poser. Enfin bref, il finance des laboratoires de recherche pour trouver des solutions alternatives, quoi. Il commence déjà à planifier une sortie du pétrole. Et donc c'est là, dans ces laboratoires, qu'on trouve les débuts de la voiture, enfin de la batterie au lithium. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler du mot transition. Le mot transition énergétique, ça vient directement de gens qui notamment bossaient dans le projet Manhattan, donc dans le projet de bombe atomique, qui pouvaient travailler soit dans le civil, soit dans le militaire, mais nucléaire. Et c'est eux qui vont forger l'expression transition énergétique. Et ça, on le voit dans le bouquin de Fressoz qui s'appelle « Sans transition », qui est sorti l'année dernière. Transition qui est aujourd'hui, c'est vraiment le progrès absolu. C'est vraiment le terme qui fait vraiment pas débat, quoi. Il me semble que je mets un moment de bascule en 2015. En 2015, on a la Chine qui vote son grand plan décennal Made in China, qui vont mettre un argent de malade mental dans la R&D, dans la recherche et développement, dans des secteurs de pointe, avec un discours, il y en a marre d'être juste de la force brute, emboutir de la tôle et faire du textile. On va aussi être à l'avant-garde de certaines technologies, dont les technologies vertes, comme eux les appellent. Ils vont mettre de la thune à fond dans l'informatique, dans la génétique, dans plein de secteurs comme ça de pointe, dont les batteries, l'automobile électrique. Jusqu'alors, c'était les Japonais qui avaient les plus grosses capacités de production. Assez vite, en 2-3 ans, les Chinois ils vont les ravager. Et aujourd'hui, il y a deux boîtes, CATL et BYD, qui sont les plus gros fabricants de batteries. Jusqu'alors, c'était Panasonic. Mais Panasonic qui continue avec Tesla. Tesla, c'est Panasonic. Tesla, ils ont rien inventé. Enfin, en termes de batterie, il y a le packaging, il y a tout, mais c'est les batteries Panasonic. Donc 2015, il y a ce gros plan d'investissement qui va faire flipper tout le monde. Les Américains vont regarder, ils vont se dire waouh, là on va être à la bourre. Les Européens, pareil. 2015, c'est aussi le scandale du Dieselgate. Le Dieselgate, c'est un scandale qui a été révélé par des Américains qui montre qu'en fait, il y a plein de boîtes, d'abord Volkswagen, qui trichent sur leurs émissions de diesel, les émissions de particules. Et en fait, en creusant, on se rend compte que toutes les boîtes, en fait, trichent. Ça fait un scandale qui fait que ça va accélérer un peu la transition vers l'électrique. Et 2015, c'est la COP21. On va dire que dans l'espace public médiatique, le plus commun, tout le monde voit arriver le GIEC et toutes ces solutions qui sont proposées notamment derrière le terme de transition. Où là, les États mettent en scène à fond leur pseudo-accord historique sur voilà, il n'y aura pas de retour en arrière, on n'ira pas au-delà de 1,5 degré, on va prendre toutes les décisions possibles et tout, et tout, et tout. Tout ça, ça va, selon moi, accélérer la transition énergétique et notamment de l'automobile vers l'électrique. L'Europe, d'abord, va se doter d'un grand plan. Donc, c'est Ursula von der Leyen qui va arriver. Donc, elle, c'est une nana de droite, c'est la CDU. C'était une très proche de Merkel. C'est elle qui va faire voter le gros plan à 1 000 milliards de Green New Deal, c'est-à-dire la relance verte, en référence à Roosevelt, New Deal de Roosevelt. Là, tout le monde applaudit. Et elle fait vraiment l'unanimité partout. Je regarde chez les Verts, chez à droite, machin, enfin, partout, elle fait l'unanimité. L'Europe fait ce gros truc à 1 000 milliards qui va financer le renouvelable, donc maintenant du nucléaire, puisqu'il est supposé vert, l'automobile et tout ce qui se trouve autour de la transition. Et la France aussi, donc Macron va suivre. Il va faire un grand discours sur l'industrie verte. Et où est-ce qu'il fait son grand discours sur l'industrie verte? En 2000, je me perds un peu dans les dates, 2020, 21, un truc comme ça, il va le faire à l'usine Saft de La Rochelle, qui est une usine, vraiment, le sol, il est pourri de chez pourri. À ce moment-là, il y a encore un contentieux avec les salariés de la Saft qui ont bouffé du manganèse toute leur vie. Il y a plein de cas de cancer, etc. Donc au moment où Macron fait un grand discours sur la réconciliation de l'industrie et de l'écologie, enfin, on a trouvé une voie comme ça, escarpée, mais on a trouvé. Il fait ça à la Saft, en plein conflit juridique. Et donc l'argent va tomber. Prime à la conversion, subvention directe. Enfin, de toute façon, l'automobile, je pense, sans l'État, je pense que l'industrie automobile n'existe pas. Ils sont tout le temps gavés d'argent public. Et donc on en arrive à la situation aujourd'hui où bah voilà, les Hauts-de-France vont devoir trouver d'urgence 20 000 salariés. Demain Dunkerque, objectif emploi, il faut trouver 20 000 salariés pour les mettre à ArcelorMittal, qui va emboutir de l'acier spécial à moteur électrique, pour les mettre chez Orano pour faire recycler des batteries, qu'on va mettre dans les gigafactories et qu'on va mettre aussi chez EDF pour faire deux EPR. Parce qu'en fait, là, ça ne va pas tenir. Tous les scénarios qui avaient été faits de RTE, etc., électriques, en fait, ça ne tiendra pas. Ce n'est pas possible. Donc, ils vont raccorder les deux EPR de Penly à la région ici, plus les deux de Gravelines. Voilà, aujourd'hui, il y a quelques signaux de fléchissement du marché. Il y a une grosse boîte suédoise, Northvolt, qui a déposé le bilan. Le projet de Suez de faire du recyclage, il a été mis sur pause. Et il y a des débats sur quelle technologie employer, entre la technologie lithium ou la technologie je ne sais plus laquelle. Et le marché de l'automobile, il n'est pas monté en flèche, enfin de l'automobile électrique, comme on l'attendait. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Moi, mon avis là-dessus, l'État a déjà mis beaucoup trop d'argent. Et de toute façon, ils ont pris des engagements, je pense qu'ils les tiendront. Mais bon, après, voilà. La transition vers la voiture électrique se fera. De toute façon, s'il faut mettre de l'argent, ils en mettront. Ils ont toujours montré que créer de l'argent, ça se fait, quoi. S'il s'agit de relancer l'économie. Voilà pour l'histoire. Plusieurs pistes de discussion possibles. Il y a celle, à mon avis, qui est super intéressante, qui est celle de l'alliance de l'État, du capitalisme et de la haute recherche scientifique. Depuis 200 ans, le capitalisme, il n'a jamais fonctionné autrement. Et l'État, il ne s'est jamais retiré de la gestion des affaires courantes du grand capitalisme, en tout cas. En France et aux États-Unis, c'est pareil. Tesla, dans l'intelligence artificielle, ils ont tous pris la blinde d'argent public, mais même si c'est un peu différent, c'est sûr, il y a des cultures un peu différentes, en Angleterre aussi. Moi, je lis Le Monde parce que c'est vraiment la Pravda. Donc eux, ils sont à fond, vent debout derrière la transition, conformément aux intérêts de leur patron Xavier Niel, qui est un investisseur du numérique et de l'intelligence artificielle et des énergies renouvelables. Eux et les industriels ont pour intérêt à en rajouter sur le fait qu'on va reculer sur la voiture électrique et sur la transition. Ils ont intérêt, pourquoi ? Parce que les industriels, ils savent qu'ils peuvent prendre du pognon. En fait, ils en ont déjà pris tellement, et en fait, ils savent faire ça. Stellantis l'a fait au Canada. Ils ont vu que je ne sais plus quelle boîte, Toyota ou je ne sais plus qui, avait pris 1,5 milliard de plus, et ils ont dit, ah bah si c'est ça, nous on va mettre notre boîte aux États-Unis. Et hop, le Canada a allongé. Donc aujourd'hui, les boîtes, elles ont un peu tendance à faire jouer la concurrence et dire bah, si on ne se met pas là, on va en Italie, ils vont nous mettre plus, ou on va en Belgique, ou alors on va carrément en Chine. Et donc je pense que c'est le côté opportunisme un peu mercenaire du grand capitalisme automobile. Une des discussions aussi, c'est il y a une espèce de guerre entre deux capitalismes, en fait, enfin de concurrence, entre un vieux capitalisme, et ça a toujours été, hein, entre un, on va dire un vieux capitalisme entre guillemets, fondé sur le pétrole, sur des grandes familles qui ont maintenant 200 ans, qui ont été des grandes baronnies du pétrole aux États-Unis et puis aussi au Moyen-Orient. Et puis un nouveau capitalisme un peu plus high-tech autour de l'électricité, et en tout cas de l'imaginaire de l'électricité qui serait propre, qui serait un imaginaire de toute puissance propre, quoi. Il y a deux modèles qui sont en concurrence et qui vont peut-être ou coexister, ou il y en a un qui va gagner. Après, il y a, à mon avis, comme je disais, il y a toujours eu un mythe électrique. Déjà au 19e, on pensait que l'électricité, ça allait pouvoir amener de la puissance partout. C'est Kropotkin qui disait ça, et on va pouvoir en finir avec les grandes usines super aliénantes, et on va pouvoir revenir à des petits ateliers à taille humaine dans lesquels voilà, il y aura moins de rapports de hiérarchie. Donc il y a ce mythe-là autour de l'électricité, il y a celui de la toute-puissance. Et avec la batterie, il y a cette toute-puissance dans ma poche. Moi, j'ai mon stock d'énergie, je vais pouvoir disposer quand je veux, où je veux, de mon stock d'énergie. Et donc ça accélère un peu la déréalisation de nos conditions de vie quotidiennes, quoi. Voilà, je peux téléphoner, je peux prendre ma voiture, je peux faire ça. Il y a une illusion de puissance et d'autonomie et de liberté, mais qui masque encore plus aujourd'hui avec ces technologies de batterie, que derrière, il y a tout un macro-système technique qui, lui, est super autoritaire, voire fasciste pour ce qui est du fonctionnement de l'industrie nucléaire, qui est le summum du fonctionnement autoritaire. Ça masque qu'il y a des entreprises extractivistes, qu'il y a des armées en Afrique, qu'il y a des pollutions. Voilà, c'est un peu l'illusion, enfin la paillette de l'électrique, la fée électricité. C'est ce mythe-là qui se trouve encore renouvelé, quoi, j'ai envie de dire. Qui se soucie aujourd'hui de relancer un grand système mondial, technique, mondial, autoritaire, si on nous promet du boulot, quoi. Et en fait, dans la région, c'est quand même le truc, c'est putain, donnez-nous du boulot. Il y a toute une culture paternaliste qui a 200 ans, qui fait qu'on est dans une situation de soumission où on attend de notre bon patron, qui est bien gentil, qui va nous donner du travail et des logements et des autobus et des trucs et des trucs. Et voilà, et on ira à l'usine. Et... Il y a plein de trucs qui peuvent s'entendre, qui peuvent se comprendre, mais enfin, ça participe du fait qu'il y aura... Il n'y a pas de contestation de ce nouveau modèle, entre guillemets. Quoi.
En France, dans les années 70, l'argument où on avait du mal à répondre... Enfin, répondre, on n'avait pas de mal à répondre, on avait du mal à gagner, c'était justement ce problème de l'emploi. Des régions comme Chaux, la vallée de la Meuse, ça marchait, ça continue de marcher, même si après, les gens se sont fait complètement avoir, mais bon.
Justement, est-ce que tu peux préciser le calendrier, parce qu'en effet, ils annoncent 20 000 emplois, mais c'est pérenne ou c'était parce qu'il y a la construction, il va y avoir la construction de la centrale ?
Pour la centrale, c'est 7 000, là, il faut 7 000 personnes. Mais étaler, ça ne va pas être 7 000 d'un coup. Pour les réseaux, pour le BTP, pour couler le béton, pour terrasser. En gros, c'est le gros chiffre, c'est 20 000. Il y a un site qui a été créé, c'est... Et sur Dunkerque, la propagande pour venir travailler à l'usine, c'est quand même super balèze. J'ai des potes qui sont profs à Dunkerque. Le nombre de programmes coordonnés par le rectorat et la chambre de commerce, enfin, c'est monstrueux, quoi. Des visites d'usine où des mecs qui viennent pour présenter les boulots avec tout un discours, venez à l'usine, mais dès la cinquième... Sur Dunkerque, c'est super fort. Il faut trouver de la main-d'œuvre, quoi. Il y a des écoles à l'ancienne, comme l'école de la mine. Il y a Vercors, ils ont leur usine avec leurs petits galibots qui vont former sur place. C'est l'école de l'usine. Si c'est pas l'usine à l'école. Et il y a une deuxième école de la batterie, plus vers Douai, enfin, pareil, avec de l'argent public, les industriels qui mettent, et puis, puis l'éducation nationale qui y va, quoi.
J'ai bossé pour Dunkerque, l'agence d'urbanisme, qui est proactive, c'est leur nouveau mot pour dire qu'ils sont à fond là-dedans. Et il y a la halle au sucre. On voit les synergies entre l'État, donc la CU de la communauté urbaine de Dunkerque, avec Vergrit aussi, parce que Vergrit qui était ancien ministre des Transports. On sent qu'il y a la machine, on est dans le cœur de la machine, il y a Arcelor qui est à côté. Ils produisent du discours. C'est vraiment de la production de discours. Alors là, il y en a un, il s'appelle Jean-François Vérec, qui est le directeur adjoint de cette agence d'urbanisme qui, par exemple, là, j'ai écouté, passe sur France Culture. Maintenant, ils parlent de symbiose, symbiose économique. Ils reprennent des termes comme ça, donc ils vont inventer limite transition. Peut-être que dans 3 ans, ça va changer, c'est peut-être plus le bon mot. Mais en tout cas, voilà, ils produisent du discours, ça c'est clair. Ils sont en train de bosser sur le logement. Nous, on a bossé sur l'eau industrielle, parce que c'est aussi des consommateurs d'eau extrêmement importants. Moi, j'ai l'impression que ça se casse un peu la gueule. Il y a les effets d'annonce, c'est la réalité. Il y a quand même un sacré fossé.
Les industriels, ils font un peu pression pour reculer un peu le calendrier, pour garder encore un peu de pétrole ou pour négocier des trucs avec des nouveaux carburants, les e-fuels, pour faire reculer un peu la date, le coup près de 2035. Je pense que la transition va se faire.
Une question, remarque sur l'histoire des deux modèles de capitalisme qui s'affrontent et le mythe de la transition. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que tu as évoqué aussi qui est de l'ordre du réalisme énergétique, à savoir que le pétrole par unité de volume concentre bien plus d'énergie que c'est facile d'avoir avec une batterie. C'est quand même le carburant par excellence. Et qu'on a peut-être l'impression qu'il y a une transition de modèle ou qu'il y a une possibilité de transition de modèle aussi par un prisme déformant qui est le prisme français, où on est le pays le plus nucléarisé du monde. Et où du coup, il y a la possibilité d'électrification de l'automobile paraît moins délirante peut-être que dans d'autres endroits. Mais en fait, à l'échelle mondiale, la production d'électricité, déjà, elle repose en grande partie sur le fossile. Enfin, partout sur la planète, globalement, à part en France et dans quelques petits autres endroits, on produit de l'électricité avec du pétrole, quoi, ou du charbon, enfin des fossiles en tout cas. Autre truc qui me fait relativiser un peu l'opposition entre les différents modèles, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que si il y a d'un coup une sortie du pétrole pour la production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, etc., en fait, on va consommer énormément de pétrole pour produire ces panneaux photovoltaïques, ces éoliennes, puisque leur production repose en grande partie toujours sur du fossile. Du coup, il n'y aurait pas vraiment d'opposition entre les deux. Puis, comme tu l'as dit aussi, dernier truc, sur que c'est Exxon qui a investi en premier dans voilà. Et Jean-Baptiste Fressoz, il montre aussi dans je ne sais plus quel bouquin, que c'est plutôt une accumulation de différentes sources d'énergie, etc., qu'une transition. Enfin, en fait, qu'il n'y a jamais de transition. Le charbon est arrivé par-dessus le bois, le pétrole est arrivé par-dessus le charbon, l'électricité par-dessus le pétrole. Même si, au sein de la classe capitaliste, il y a évidemment certains qui ont mis plus de billes dans un secteur que dans l'autre, il y a des oppositions. Mais à l'échelle du système, je vois vraiment ça comme un tout. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'opposition que ça.
Là, je pense que c'est juste Macron qui a voulu pousser, pour la France en tout cas, l'avantage comparatif d'un parc nucléaire plus gros qui permet du coup éventuellement, potentiellement, de fournir plus vite, plus d'énergie à plus d'entreprises en disant « Les autres, ils ne l'ont pas, nous on l'a, on y va ». Mais l'objectif de transition, il n'est pas là parce que de toute façon... Faut produire tous les trucs par tous les moyens imaginables en faisant venir des trucs de Chine ou d'Allemagne qui sont produits avec du charbon, du pétrole. Faut les produire, les pièces de sidérurgie, quand même. Il faut du charbon.
Moi, je me demande, tu dis que les batteries, là, on va leur faire l'électricité de 4 EPR, de 1 Penly et de 1 Gravelines. Les EPR, on n'a pas encore prouvé vraiment que ça marche. Que je sache. Le lithium pour faire des batteries, c'est limité apparemment. Est-ce que vraiment on pourra faire des voitures avec des batteries en grand nombre? Et si elles ne sont pas en grand nombre, elles vont être chères. Et que deviennent les gens qui ne pourront pas s'acheter une voiture électrique? Est-ce qu'on ne va pas vers un changement social profond où tu auras une petite élite qui aura sa voiture? Supposons qu'on interdise effectivement les voitures à essence au bout d'un moment. Et puis le reste du peuple qui se démerde comme il peut. C'est-à-dire, si chacun n'a pas sa voiture ou à peu près, ça change radicalement la société. Même l'habitat, il est conçu pour que les gens puissent se prendre leur voiture le matin et faire des kilomètres pour aller bosser, quoi. S'il n'y a plus de voiture, ils font quoi? Ça met en cause énormément de choses, les centres commerciaux, etc. Puis encore un handicap, je trouve, c'est que je disais dans Le Monde Diplo récemment que on ne sait pas trop récupérer non plus le lithium des batteries. On ne sait pas trop recycler les batteries. Donc, il me semble qu'il y a un tas de handicaps technologiques qui font que... est-ce qu'on peut vraiment y croire qu'un jour, ça va arriver?
Moi, la question qui me taraude un peu, pour que le cycle du profit se réalise, il faut que tu trouves des débouchés. Et actuellement, l'industrie de la bagnole, en Chine, tu as 123 constructeurs. Ils sortent 80 millions de bagnoles par an. Alors là, c'est pareil, gavés par les investissements de l'État, ils en écoulent la moitié. L'autre moitié est exportée. Et une bonne partie vient se stocker alors sur les quais de Zeebruges, d'Anvers, même à Calais, à la sortie de Calais, sur des immenses parkings, des milliers de bagnoles qui ne trouvent pas acheteurs dans l'année. Il y a un gros problème de surproduction et d'acier et de bagnoles. Alors en Chine, c'est, je crois que les usines, elles tournent seulement aux deux tiers. En France, on est arrivé à la situation de capacité de production utilisée à moitié. Moi, la question que je pose, c'est celle-là, c'est pas trop de la transition. Je veux dire, ça, c'est l'habillage, quoi. L'État va continuer à droguer complètement l'industrie. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'évidemment, le service de la dette et donc du fric public va continuer de s'accroître. Ça, c'est intéressant en termes de crise.
Sur l'indépendance énergétique de la France, à partir du moment où les terres rares sont ailleurs, qu'il n'y a plus d'uranium en France, de deux choses l'une. Soit la France est indépendante énergétiquement parce que les propriétaires des concessions de terres rares, de métaux, de lithium, d'uranium, de cobalt, etc., qui est extrait dans des conditions abominables d'ailleurs par des gamins au Congo, au Ghana ou ailleurs. Alors, soit, effectivement, on est indépendant énergétiquement, et ça veut dire, ça veut dire qu'on est resté dans un bon vieux colonialisme. On possède le sous-sol, en Afrique notamment. Ou alors, soit on considère que ces gens-là sont propriétaires de ce qu'il y a sous leurs pieds et qu'ils nous vendent, et l'indépendance énergétique de la France n'existe pas. Je pense aussi, notamment, en cas de conflit, les ressources en question, où est-ce qu'on va les avoir ? C'est le nerf de la guerre aussi.
Quand il y a une nouvelle, entre guillemets, révolution industrielle qui s'annonce, est-ce que ça va tenir ? Est-ce qu'ils vont avoir les débouchés ? Est-ce qu'ils vont avoir les ressources ? Préparons nos armes au cas où ça marche, intellectuellement. Vaut mieux considérer théoriquement que ça a marché, même si peut-être par bonheur ça va s'écrouler. D'autant plus que depuis 200 ans, il y a quand même plein de trucs qui ont marché. Enfin, on n'en serait pas là si... Mais bon, après, oui, effectivement, on peut retrouver des limites sur le lithium, on peut trouver des limites sur la production électrique. Ensuite, sur l'indépendance, bien sûr. Il y a une copine qui a fait, Célia Isoar, qui a fait un bouquin sur l'extractivisme et tout ça, qui bosse pour Reporters et tout. Elle est allée au Maroc, et elle est allée dans les mines, des mines de métaux qui ensuite servent à l'industrie automobile allemande, qui devait appartenir ou qui devait être en contrat avec Volkswagen ou je sais pas quoi. Et effectivement, c'était des conditions dégueu, quoi. Socialement, écologiquement. Voilà, la belle industrie en transition. Mais il y avait un truc qui me posait problème dans sa dénonciation. C'était genre, l'industrie européenne arrive comme des pillards. Ils viennent et ils en ont rien à foutre et ils vont écraser tout le monde et tout. Et moi, je pense que les Marocains sont tout à fait capables, comme nous, d'avoir envie de piller leurs propres ressources et de faire n'importe quoi avec ce qu'ils ont sous leurs pieds. Et je pense qu'il n'y a aucun peuple dans le monde qui peut se prémunir de ne pas faire... Nous, on l'a fait en Amérique du Sud et l'Amazonie, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils peuvent détruire l'Amazonie. Il y a ce rapport-là colonial, genre... on vient avec notre mauvaise conscience, mais localement... Après, localement, il y a aussi des groupes. Il y a aussi des syndicats, il y a aussi des écolos, il y a aussi des trucs. Comme partout,
Il y a des groupes d'acteurs avec des grosses contradictions à l'intérieur des mouvements environnementalistes dans le Maghreb, parce que les usines de phosphate, Sfax et tout machin, etc., c'est absolument infect. Ceux qui s'opposent, c'est parfois aussi d'autres groupes de capitalistes ou de petits capitalistes. Les pêcheurs, typiquement, ils ne sont pas contents quand on déverse du phosphate dans la flotte juste à côté. Les peuples sont tout à fait capables de s'autopiller. Et les luttes contre l'industrialisation, etc., et la pollution mêlent des contradictions de classe aussi à l'intérieur, et c'est un petit peu plus complexe que ça. T'as peut-être pas fini.
Et le troisième truc, c'était sur l'idée de transition. Ouais, c'est vrai que Fraisseuse, donc son bouquin, et lui, il montre bien qu'on consomme de plus en plus de bois. On n'a jamais consommé autant de bois, autant de charbon, autant de pétrole, et qu'en fait, il n'y a pas de transition, il y a une accumulation. C'est vrai. Il n'empêche qu'à chaque fois, il y a quand même, socialement, ça change tout quand même. Enfin, on ne vit plus à l'époque du feu de bois, on vit à l'époque des centrales nucléaires. Et en fait, socialement, ça a quand même tout changé. Et je pense qu'avec cette transition, si d'aventure elle se fait, on va peut-être consommer de plus en plus de pétrole, mais on est en train de consommer ce qui explose en termes de production, c'est l'électrique et c'est surtout le renouvelable. Et en fait, on va vivre de plus en plus dans une société qui sera énergétiquement dominée, si on suit et que leur modèle arrive, dominée par une production renouvelable. Et donc qui impose une certaine organisation sociale, qui est celle de s'organiser avec une énergie intermittente, une production intermittente. D'où le recours aux batteries. C'est ça que j'ai pas dit. C'est qu'en fait, les batteries, elles servent aussi pour les grands énergéticiens, parce qu'ils vont se retrouver la nuit. C'est un des exemples. Les batteries, elles ne servent pas que pour l'automobile. Il y a aussi des gros parcs de batteries. Les premiers consommateurs de parcs de batteries, c'est Amazon et Google. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans le Nevada, ils mettent des gros data centers. À côté de ça, ils mettent 400 hectares de panneaux solaires et je ne sais pas combien d'hectares de batteries. En journée, le data center, il tourne à l'énergie solaire et la nuit, en fait, il tourne avec qui était stocké. Le développement des batteries rend possible, enfin, il est aussi suscité par les énergéticiens qui ont besoin de stocker quand il n'y a pas de vent ou quand ça consomme trop par rapport à la production, quoi. En fait, le premier modèle de Renault, là, qui est fabriqué là dans la région, il utilise une technologie qui est que la batterie, elle va être branchée sur le réseau et avec tout un tas de systèmes intelligents de détection de où est-ce qu'on en est sur le réseau et qu'est-ce que la batterie a comme stock. En fait, l'énergie, elle peut rentrer comme elle peut sortir. Si tout le monde arrive à 18h30, se branche et pompe, c'est pas possible en fait, ça va faire éclater le truc. Avec des batteries qui sont bidirectionnelles, la batterie, elle va pouvoir balancer dans le réseau. Et en fait, on va tous être un petit stock de batterie pour le grand réseau, pour pas que le gros réseau craque. À 18h30, ce qui va rester d'électricité dans notre bagnole va partir dans le réseau pour qu'on puisse tous regarder TF1. Et à partir de 23h, ça va être l'inverse. On va recharger nos batteries. Ce modèle d'énergie intermittente et de batterie, elle organise un pas de plus dans le contrôle cybernétique de la société. Il faut quand même tout le temps contrôler qui produit quoi, qui consomme quoi, à quel moment et quels sont les besoins. Entre autres conséquences de ce nouveau modèle de transition, quoi. Pressos, il a raison en disant qu'on va consommer de plus en plus de tout, sauf que quand même socialement, ça va quand même changer les choses.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes et on continue avec Tom Jo qui a travaillé sur la question des voitures électriques et de l'installation dans le nord de la France des gigafactories.
Juste rapidement, c'est l'histoire des parcs à batterie et de la fluidité du réseau, enfin de l'électricité justement pour faire tenir tous les usages qui m'y a fait penser. À mon sens, les attaques qui ont eu lieu contre l'agence elle-même gouvernementale de l'ADEME ne sont pas un hasard. Il y a un an, ils ont sorti 4 scénarios de consommation énergétique selon le type de consommation que l'État veut engager pour la société. Le travail essentiel de leurs équipes, c'est sur justement la cogénération énergétique, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus l'expression exactement, qui consiste à trouver des moyens sur un réseau de faire cette fluidité par la coexistence de plusieurs énergies. Mais ça, ce n'est possible que si on ne part pas du principe d'une augmentation de la consommation. Ce n'est possible que si on est sur vraiment une optique de transition, au sens où le commun des mortels l'entend, de changer un peu le mode de truc d'énergie, c'est-à-dire voilà, on va mettre moins de pétrole, on va mettre du renouvelable, on va pouvoir fluidifier tout ça avec des histoires d'horaires, de changements de société, un très important. À mon sens, c'est pas un hasard si un an après qu'ils ont sorti ça, on attaque l'ADEME, parce qu'en fait, si on regarde leur scénario, c'est le scénario du maximum de consommation, d'accumulation des énergies au lieu de leur co-gestion. Et par conséquent, tu vois direct dans le rapport ce que ça implique pour la planète. Le rapport, il a été publié, mais il y a eu un truc médiatique dessus, assez important. Le copain me l'avait envoyé, bon, c'est compliqué à lire. Ils ont été déçus parce que personne n'en a parlé, mais si on voit bien que ça se place dans le quatrième, et dans le quatrième, c'est vraiment une dichotomie de la société, comme tu disais tout à l'heure, entre ceux qui vont pouvoir et ceux qui ne vont pas pouvoir, en fait. Plus la destruction de l'environnement.
Le mythe de la transition, il est accompagné en France du mythe de la réindustrialisation, comme si on allait réindustrialiser la France. Il y a tout un tas de trucs avec les mines de lithium en France, etc., le nucléaire, tout ce que tu as décrit sur les batteries, les EPR. Sauf qu'il y a un principe, c'est que en fait, c'est pas réaliste du tout au niveau de productivité et de compétitivité qu'il y a actuellement sur la planète. En fait, la France, elle va se faire écrabouiller immédiatement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils déversent aussi autant d'argent public, hein, c'est pour maintenir artificiellement un niveau de compétitivité qui n'y a pas du tout. La voiture électrique française, ce made in France, c'est une illusion complète. Il n'y en aura jamais. La voiture électrique chinoise, elle écrabouille tout. Les gens, s'ils ont le choix entre acheter l'un et l'autre, ben c'est vite plié. Et du coup, la question se pose de savoir à quoi ça sert de mettre autant de propagande sur un truc qui est complètement illusoire. Les chaînes de valeur mondiales, les circuits mondiaux qu'il y a avec les super tankers qui font le tour de la planète, le canal de Suez, le canal de Panama, l'extraction à tel endroit et la transformation à tel endroit et l'assemblage à tel endroit, elles peuvent pas être remodelées en un claquement de doigts, ça prendrait du temps. La question se pose si la reconfiguration géopolitique des luttes entre impérialisme, est-ce que à l'intérieur d'un bloc impérialiste, ils sont capables de boucler l'intégralité de la chaîne de valeur? Pas certain. Enfin, c'est ce qu'on voit avec la France et la Russie par rapport à l'uranium et au nucléaire. Enfin, en fait, y a beau y avoir une guerre entre les impérialismes européens et russes, ben, en fait, ils continuent à échanger en permanence pour le gaz. C'est pas possible. À quoi ça sert de ce mythe de la réindustrialisation qui est martelé en permanence? Je pense que ça sert essentiellement à faire un chantage à l'emploi, aux conditions de travail dégueulasses. Ben, typiquement, à côté de chez moi, Renault Flin. Donc, il n'y a plus de bagnole thermiques qui sont produites depuis un moment. Il y a eu la Zoé qui a été même pas produite, mais seulement assemblée à Flins pendant un moment. Et maintenant, c'est même plus le cas. Ils veulent vendre 4 aires de recyclage, reconditionnement. Ils veulent utiliser cet espace-là pour ça. Bah, c'est le chantage permanent à ce qu'ils maintiennent quand même un semblant de petite activité là, de valoriser une pseudo-industrie de la batterie recyclée sur le site de Flins. La transition, c'est un mythe. Et la réindustrialisation, c'est le mythe qui est associé. Parce que les emplois vont être consommés aussi vite qu'ils auront apparu. Enfin, si jamais ils font vraiment des mines de lithium en France, ils vont tout piller en un claquement de doigts et quelques années après, il n'y aura plus rien. Pour moi, c'est juste pour que les gens ferment leur gueule et qu'il y ait des chantiers qui se fassent dans des conditions de merde.
Moi, j'avais noté par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir quelles sont les potentielles contradictions ou crises qui peuvent aboutir de ce modèle-là. Les bagnoles, on les produit, mais finalement, on n'arrive pas à les vendre. Donc ça, c'est peut-être une contradiction qui est à souligner. Après, n'empêche qu'on nous oriente vers ça. Alors, moi, j'ai noté comme contradiction la ZFE. Moi, j'ai une lecture aussi de... Elle peut être appliquée dans une dimension centre et périphérie. C'est-à-dire que finalement, la ZFE ne s'applique que dans les centres. En fait, il s'emballait que de la périphérie. Londres, je crois que c'est déjà ça. Où tu peux pas circuler, où il y a carrément des caméras qui te disent toi tu peux pas, etc. Et moi j'ai plus une réflexion centre-périphérie où les centres, c'est plus des centres productifs de toute manière, un centre-ville c'est de la consommation, c'est la bourgeoisie aussi qui s'accapare les centres-villes, on a juste droit de passage avec le métro pour aller à la zone commerciale et puis pour le prolo il repart à Roubaix-Tourcoing ce soir. J'ai plus une lecture de la ZFE comme ça. Elle va s'appliquer et finalement les usines, comme c'est des usines en périphérie, ici si on parle de Douai, de Douvrin, de Dunkerque, on est en périphérie. Donc moi je vois pas une tension plus que ça. Une autre contradiction, c'est que les impérialismes, il faut quand même s'y intéresser puisque on connaît tous l'histoire de Trump, mais le néolibéralisme, en plus c'est même pas du libéralisme parce que c'est gavé de pognon. Mais là, on arrive dans de l'impérialisme un peu à la dure où il va falloir repartir sur des ressources stratégiques. Alors, je ne sais pas quelles sont les terres rares qu'il y a en Ukraine, mais j'ai l'impression que c'est quand même des terres rares qui vont être utiles pour toute cette économie que tu as expliquée, l'économie de la batterie. L'impérialisme, il joue là-dessus et ça peut amener à des situations de crise, de guerre qu'on connaît aujourd'hui. Et j'avais noté deux dernières choses. C'est 20 000 personnes qui vont arriver sur le Dunkerquois localement. Quelle va être la classe ouvrière, en fait, qui va être issue de ça? Les capitalistes, ils vont devoir à un moment aussi fidéliser cette main-d'œuvre, les payer. Qu'est-ce qu'il va avoir comme nouvelle classe ouvrière par rapport à cette économie? Et ça, ce serait intéressant, je n'ai pas la réponse. Il y a aussi des tensions dans le capitalisme où ils vont devoir quand même payer et aligner des thunes, et ça, ils le font, pour produire. Mais si la production, elle ne marche pas autant que dans les années 60, où là, les bagnoles, ça se vendait, il peut, je pense, y avoir une tension, une crise intéressante. Et la dernière question, bah, c'est les oppositions. Alors c'est peut-être une question, tu l'as dit dans ton introduction, ici tous les pouvoirs sont alignés sur ce discours transition, tout l'échiquier politique. Syndicalement, moi j'ai pas observé de discours, ce serait intéressant de voir par exemple au sein de la CGT ou les sections auto, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. À Douai, il y avait Sud qui était majoritaire, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Alors, sur le truc de la main-d'œuvre, ouais, fidéliser la main-d'œuvre, c'est vrai que là, l'agence d'urbanisme et tout, ils sont à fond là-dessus, quoi. C'est comment est-ce qu'on va les faire venir et comment est-ce qu'on va les faire rester là. Et notamment les ingénieurs. Parce que dire à des ingénieurs d'un Dunkerque, putain, c'est pas gagné, venez à Douai, je vais faire autre chose. Ils ont refait la digue de Malo en pensant à ça. Et ils font des films à fond, le film Dunkerque de Nolan et d'autres trucs, le Baron Noir et tout. En fait, tout ça, ça participe d'une stratégie de refaire une image de Dunkerque un peu moins grise, quoi. Et dans l'art contemporain, il y a plein de thunes, le frac. Ils sont en train de créer du divertissement un peu haut de gamme. Parce que l'ancien ministre de l'Industrie, là, Lescure, voilà, il était tout le temps dans la région, lui. Dès qu'il fallait inaugurer une boîte, c'était le gros, comment dire, l'artisan, on va dire, la petite main sur ces gros dossiers-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi lui qui était à fond dans le truc de faire rentrer dans la loi le truc des métiers en tension. Et lui, il était en contradiction avec Darmanin et avec une partie de la droite et tout ça, parce que si on veut transitionner, notamment dans des endroits comme le Dunkerquois, à un moment donné, la peinture ici locale, elle ne va pas suffire. Et parce que, par exemple, il y a Prologium, c'est des Taïwanais, eux, ils vont ramener tous leurs ingénieurs. Donc il y a plein de gens qui vont arriver de Taïwan, et même de la main-d'œuvre. Lui, c'était un des gens qui, dans la loi immigration, avait ramené ce truc des métiers en tension. T'as l'hôtellerie qui ont milité, mais t'as aussi les secteurs de l'industrie lourde qui militaient pour faire partie de ces trucs des métiers en tension. Quand ils allaient les chercher en Pologne, ou ils amenaient les trains directement, ou au Maroc, enfin, je veux dire, c'est des vieilles stratégies patronales qu'ici, en fait, on a toujours connues. Et puis, alors, syndicalement, j'ai vu, là, dernièrement, des trucs de la CGT Arcelor, qui pousse à la transition en disant l'État leur a proposé 850 millions d'euros pour décarboner le process. Il y a deux gros projets à Arcelor. Il y a création d'une nouvelle ligne d'acier spécial, parce qu'il faut des alliages spéciaux qui soient super conducteurs pour faire des batteries. Et il y a l'autre volet qui est décarboné. Donc on ne va plus faire des hauts fourneaux au charbon, mais on va utiliser d'autres procédés électriques. Et Arcelor a tendance à freiner, et la CGT pousse à fond pour dire accélérer la transition. Parce qu'il y a des emplois en jeu, et parce qu'il y a des perspectives, en fait, avec cette transition, quand même, il y a des perspectives d'emploi. Pour le reste de l'automobile, ils avaient plutôt tendance à dire, au début, que l'automobile électrique créera moins d'emplois que ce qui va être détruit en détruisant le thermique. Qui est probablement vrai, en fait. Au niveau général, il faut moins de gens pour faire une voiture électrique que pour faire une voiture thermique. Mais ce qui est vrai globalement, n'est pas vrai ici dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Ici, il va tellement y avoir de trucs. En tout cas, les syndicats, je les ai plus trop entendus là-dessus. Parce qu'il va y avoir du recyclage, parce qu'il va y avoir tout un tas d'activités autour. Donc c'est peut-être pas vrai, là, ici, qu'il y aura moins d'emplois dans l'automobile.
Le syndicat des dockers de Dunkerque, qui est le seul avec Saint-Nazaire, moi je crois que c'est fini, qui était sorti de la CGT, n'avait pas fait grève depuis 30 ans. Donc il y a la question effectivement des retraites, mais aussi il réclame, pour aller un peu dans ce sens-là, l'accélération des projets justement industriels qui traînent un peu la patte sur Dunkerque. À mon avis, le problème d'Arcelor, c'est qu'ils vont se prendre une restructuration, quoi. Alors moi c'est étonnant avec la CGT, parce qu'ils savent que les infrastructures, ils sont vraiment en bout de course, donc il y a une carte à jouer. Moi je pense que ça va être comme pour l'automobile, ils vont perdre la moitié des effectifs. Alors pour eux, je pense que c'est mieux que la liquidation du site, puisqu'il n'y en a plus que deux. Hein. Il y a Dunkerque et puis je crois que c'est le dernier. Une fosse, ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que si l'idée, c'est de voir un petit peu sur quelles contradictions et sur quelles critiques on peut appuyer contre ces histoires de batterie, j'ai l'impression qu'il y a à la fois l'aspect social, et notamment celui des travailleurs, enfants ou pas, dans les pays où ça extrait, où c'est vrai que les quelques images qu'on a pu voir des enfants au Congo, c'est pas possible, tu vois, qu'on puisse, nous, voyager dans des voitures machin ou avoir des téléphones trucs avec une batterie sur le dos de cette réalité-là. Donc il y a toute la question sociale, mais c'est vrai qu'aussi il y a la question de l'extractivisme, quoi, pas lui-même, c'est-à-dire la pollution que ça entraîne, la dévastation d'espaces entiers pour récupérer 3, 3 merdes et demi, le nombre de tonnes qu'il faut secouer pour arriver à avoir quelque chose. Là, jusqu'à présent, on n'a pas tellement abordé le fait qu'il y a vraiment une nécessité de réduire notre consommation d'énergie. Là, on est comme si on acceptait le fait que, bah voilà, il faut, voilà, on va consommer, on va produire, on va machin, il faut y aller, il faut produire de l'énergie, absolument. Il y a quand même plein de trucs qu'on peut remettre en question, et qui le sont d'ailleurs, sur la question des transports en commun, de la voiture individuelle. Pourquoi tant de voitures individuelles? Est-ce bien nécessaire? Pourquoi travaillons-nous aussi loin des centres-villes ou de nos lieux de travail? Enfin, il y a peut-être aussi des questions à remuer pour éviter d'avoir autant de bagnoles. Sur la question de l'énergie verte, effectivement, non, le nucléaire, c'est pas vert, non, c'est clair. Et puis, les batteries au lithium, c'est pas vert non plus, quoi. On sait même pas comment, après, les dépolluer ou les recycler. Donc, il y a surtout aussi ces aspects-là, quoi. Et puis, il y a toute cette histoire de numérique, d'intelligence, soi-disant intelligence artificielle, qui va demander encore plus d'énergie. Est-ce qu'on a bien envie de vivre dans ces espaces-là? Il y a peut-être tout cet imaginaire, la technologie c'est bien, c'est moderne, c'est l'avenir, qu'il faut quand même arriver un petit peu à déconstruire. Je pense que ça ne fait pas planer tout le monde, en sachant en plus qu'il y a toute une partie de la population qui ne pourra pas se le payer. Quant à la troisième zone, là, sur la région parisienne, là, nos voitures, pour moi c'est vraiment... une décision ultra autoritaire de dire vos bagnoles, on va les mettre à la casse, vous ne pourrez plus les utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est un vrai délire. On passe des contrôles techniques hyper régulièrement, qui sont hyper contraignants, et on va nous dire que nos bagnoles, elles sont plus bonnes, alors qu'on sait que les bagnoles à batterie, machin, elles sont tout aussi polluantes, ou que les SUV, ils sont largement tout aussi polluants que nos vieilles bagnoles qui sont passées au contrôle technique. C'est une mesure hyper autoritaire qui va nous imposer des modes de vie. Ça continue par la bagnole, et puis ça va continuer indéfiniment avec le frigo, avec les stores, avec les systèmes de sécurité, avec ci, avec ça.
Enfin, pour revenir un peu sur le côté unanimisme, il y a quand même un truc super choquant là, dernièrement, qui s'est passé. Donc, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Borax à Dunkerque, qui raffine des produits boratés, bon, je ne connaissais pas, et qui va raffiner du lithium d'une certaine qualité de pureté pour ensuite être utilisé. Il s'avère que c'est une entreprise qui a été rachetée par Rio Tinto. Rio Tinto, qui est une multinationale d'extraction, la troisième du monde, et qui est connue dans le monde entier pour ses ravages écologiques et sociaux, etc. Qui est propriétaire de la plus grosse mine de lithium au Chili, et qui a des mines un peu partout. Et au conseil régional, ils votent une subvention à cette entreprise de 150 000 euros à l'unanimité des Verts, de la FI, de tout le monde. Incroyable. Avec discours du mec des Verts en disant « Oui, alors attention, on les connaît, hein. Faudra être vigilant sur comment... on attend le mec qui va y aller tous les jours, regarder s'ils ont utilisé la poubelle jaune ou quoi. » Et donc, ils vont filer de la thune à Rio Tinto.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... ça peut être à la fois quelque chose de... ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.